Chapitre 22. Shelley conduisit Cal chez les Duval. Le pisteur ne dit pas grand-chose pendant le trajet, se contentant de regarder le paysage défiler par sa fenêtre. Rien que pour ça, Shelley le trouvait sympathique. Elle non plus n'avait jamais été très douée pour la causette. Elle entra dans le jardin des Duval et eut la surprise de trouver une Toyota gris métallisée devant la maison et un homme seul près de la porte barré par un ruban de scène de crime. Jeune, la petite vingtaine. Une tenue décontractée, un short multipoche usé, un t-shirt bleu taché de sueur sous une chemise à carreaux ouverte, des chaussures de randonnée poussiéreuses. Shelley descendit de voiture, main sur le holster, et elle s'apprêtait à lui demander de décliner son identité lorsqu'il prit les devants. « Est-ce que vous seriez le shérif ? » demanda-t-il. « Parce que j'aimerais bien parler au shérif. J'aimerais parler à toute personne capable de m'expliquer... » Sa voix se brisa. « De me dire ce qui s'est passé ici. » « Henry Duval ?» devina Shelley en faisant le tour de sa portière. Il confirma, passa une main tremblante dans ses cheveux très bruns. Après avoir reçu le coup de fil de la police, je ne savais pas très bien où aller. À part ici, vous voyez. La maison. Je suis rentrée à la maison. Et là, j'ai vu le ruban. Il ferma les yeux comme encore hébété. « Je ne savais pas très bien où aller, » répéta-t-il. Shelley comprenait. Elle avait chargé un de ses agents de prévenir le fils Duval, mais ensuite les événements s'étaient précipités et elle n'avait pas eu le temps de reprendre contact avec son agent ou avec Henry Duval. Ni d'ailleurs avec les parents d'Erin Hill et du jeune homme abattu dans la station-service. L'espace d'un instant, le simple nombre de victimes lui donna le vertige et elle sentit un petit frisson la parcourir. 4 morts, 2 blessés, et il n'était même pas encore 15 heures. Cal Noonan fit le tour de la voiture et vint se poster à ses côtés, comme un encouragement à redresser l'échine et endosser son fardeau. « Toutes mes condoléances, » dit-elle au jeune homme. Elle se tourna légèrement vers sa droite. « Je vous présente Cal Noonan, un de nos meilleurs pisteurs. Il nous aide à retrouver l'individu qui a tué vos parents. « Telly, vous voulez dire ?» Henry se rapprocha et ajouta avec amertume « La nouvelle lubie de mes parents. Merveilleux. Vous le connaissez ?»« Pas vraiment. Je ne l'ai rencontré que 3 ou 4 fois, aux vacances de Noël, de printemps, vous voyez. J'étais déjà partie à l'université quand mes parents ont décidé de se lancer dans ces histoires de famille d'accueil. »« Est-ce que Telly s'entendait bien avec vos parents ?»« Tout le monde s'entendait avec papa. » Et maman n'aurait pas fait de mal à une mouche. Henry secoua la tête, agité. Il recommença à faire les 100 pas devant la maison. Cal, à côté de Shelley, croisa les bras, toujours sans mot dire. « Pourquoi sont-ils devenus famille d'accueil ?» demanda Shelley. Henry haussa les épaules. Papa s'imaginait toujours qu'il pouvait sauver le monde. Dans son lycée, il enchaînait les heures supplémentaires pour faire du tutorat auprès de tel élève mal dans sa peau ou de tel autre indiscipliné. « Le pire, c'est qu'il était doué, » dit Henry en relevant la tête. Les gamins l'appréciaient. Les adultes aussi. Tout le monde l'appréciait. « Mes parents sont des gens bien. Demandez à qui vous voulez. Ce n'est pas une histoire de famille d'accueil maltraitante qui aurait mené la vie dure à un adolescent isolé. Mes parents y mettaient du cœur. Il se donnait du mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est entièrement la faute de Telly, pas la leur. » Shelley le trouva très véhément sur le sujet, presque trop. « Est-ce que vos parents parlaient de Telly ? C'est très exigeant l'accueil d'un enfant placé. » « Ma mère n'avait pas eu une adolescence facile. Elle en parlait peu, mais je sais qu'elle s'était enfuie de chez elle. Seulement à 16 ans, entièrement livrée à elle-même. » Elle disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle serait devenue si elle n'avait pas rencontré papa. C'était son idée à elle de devenir famille d'accueil. Personnellement, je pense qu'elle ne savait pas comment s'occuper quand j'aurais quitté la maison. Trop de temps libre, trop de pièces vides. Je crois que si elle avait pu choisir, elle aurait eu une 12aine d'enfants. Mais les dieux de la fertilité n'étaient pas avec elle et, pour finir, ils ont déjà eu de la chance de m'avoir. Elle m'appelait son fils miracle. Un petit hoquet. Okay. Henry prit une grande inspiration, s'arma de courage pour continuer. Donc, la dernière fois que je suis venue, maman apprenait à Telly comment tenir son ménage, se servir d'un carnet de chèques, faire ses courses, sa lessive. Elle lui a aussi appris à cuisiner un peu. Du poulet à la parmesane. Quand je pense que je ne sais même pas faire le poulet à la parmesane de ma mère. Vos parents préparaient Telly à prendre son indépendance, traduisit Shelley. Henry lui lança un regard entendu. Bah, c'est pas comme s'il allait faire des études. Prends-toi ça dans les dents, gamin, pensa Shelley. Pendant que Henry était élu tous les ans fils de l'année, Telly avait une étiquette « lubie » collée sur le front. Vous disiez que votre mère s'était enfuie de chez elle à 16 ans. Quid de sa famille ? Connais pas, dit Henry. Ses parents vivent encore ? Elle avait coupé les ponts ? Henry haussa les épaules, le regard fuyant. Et du côté de votre père ? Essaya Shelley. Ses parents sont morts dans son enfance. Il était fils unique. Des amis intimes, des relations ? Maman, je ne sais pas. Elle faisait un peu de bénévolat. Mais est-ce qu'elle aurait eu une meilleure amie, quelqu'un comme ça ? Je dirais que c'était mon père son meilleur ami. Même chose pour lui. La plupart du temps, ils semblaient se suffire l'un à l'autre. Intéressant, songea Shelley. J'ai cru comprendre que vous travailliez à Beaverton, lança-t-elle. J'avais pris quelques jours de congé. J'étais à Astoria, on campait avec des potes. J'espérais passer à la maison avant de rentrer. Faire une surprise à mes parents. Le visage de Henry se crispa. Le choc s'estompant, le chagrin prenait le dessus. La dernière fois que vous avez vu vos parents ? Demanda Shelley en notant ses yeux marrons et ses cheveux bruns. Je sais plus. Il y a un mois et quelques, pour le 4 juillet, ma mère vous aurait dit que ça faisait trop longtemps, c'est pour ça que je pensais faire un saut à la fin de mon congé. Henry se frotta les joues. La dernière fois que vous vous êtes parlé ? Il y a 2 semaines, au début du mois d'août. Est-ce que vos parents auraient évoqué un sujet en particulier ? Une brève hésitation. Henry secoua la tête. Pas de problème avec Telly ? Insista Shelley. Encore un temps, puis nouvelle dénégation. Shelley ne dit plus rien, le laissa venir. Je ne peux pas entrer dans la maison. Non, je suis navrée. Les constatations sont encore en cours. Est-ce que vous avez retrouvé Telly ? Des pistes ? Vous serez informés à la minute où nous saurons quelque chose. Henry resta planté là, les mains dans les poches, le regard sur la porte scellée. Vous allez avoir des questions à poser, non ? Des choses que vous aurez besoin de savoir. Est-ce que je peux vous être utile ? Il y avait un léger accent de supplication dans sa voix. Si vous pouviez rester en ville dans les prochains jours, cela nous aiderait grandement. Entendu. Je vais trouver un hôtel, un camping ou autre. Je vous donne mon numéro de portable. Shelley enregistra le numéro dans son téléphone professionnel et donna ses propres coordonnées. Henry prit une dernière inspiration tremblante. Et les corps de mes parents ? Étant donné les circonstances, le légiste va devoir pratiquer une autopsie complète. Malheureusement, disons que ça se bouscule un peu au portillon en ce moment. La 2e fusillade, j'en ai entendu parler. Mais pourquoi fait-il ça ? Dit Henry, laissant brusquement éclater sa colère. Enfin quoi, mes parents essayaient de l'aider, et lui, il les abat comme des chiens, pour aller continuer le massacre ailleurs. Comment c'est possible une chose pareille ? Quel genre d'individu ? Shelley n'avait pas de réponse. Henry Duval s'interrompit, comme s'il se rendait compte de la futilité de ses questions. « Mes parents étaient des gens bien, » répéta-t-il. « Ils ne méritaient pas ça. » Je compatis à votre douleur. « Regardez dans le freezer, » dit Henry en passant à côté d'eux sur le chemin de sa voiture. « Ma mère avait l'habitude de cacher de l'argent dans des sacs de congélation, sous les petits pois derrière la dinde, par exemple. Son bas de laine en 4 coups durs. Telly devait savoir où regarder pour voler cet argent. Une somme importante ? Quelques centaines de dollars, j'imagine. Et les armes, ça va de soi. Mon père en avait 6. 3 pistolets, 3 carabines. Elles doivent être dans l'armoire forte du sous-sol. À moins que... Henry sembla d'un seul coup comprendre ce qu'étaient devenues ses armes. Et laquelle d'entre elles Telly avait dû utiliser pour assassiner ses parents. Je vous contacte dès qu'on a du nouveau. lui assura Shelley d'une voix apaisante. Henry n'ajouta rien. Il monta en voiture, ses mains tremblant visiblement sur le volant. Puis le dernier représentant de la famille Duval s'en alla. Shelley et Cal le regardèrent s'éloigner. « Cheveux bruns, yeux bruns », fit-elle remarquer. « Chaussures de randonnée », ajouta Cal, comme le deuxième client de la station-service décrit par Jack George. « Et pas très franc du collier. Henry Duval nous cache quelque chose. » Le fils biologique et l'enfant placé auraient comploté l'assassinat des parents ? Demanda Cal avec un scepticisme non dissimulé. Shelley fit la grimace, gratta les cicatrices de son cou. « Ce n'est pas qu'il y ait un gros héritage à se partager, » convint-elle. « Et pourtant... » Plus de questions que de réponses. Une habitude dans cette enquête. Elle secoua une dernière fois la tête et fit entrer Cal sur la scène de crime. Avec la chaleur, l'odeur ne s'était pas arrangée, et les mouches étaient de retour. « D'où venait-elle, au juste ?» se demanda Shelley. Mais comme la moindre odeur de sang les attirait, les insectes passaient devant eux comme des fusées et s'agglutinaient. Les cadavres des Duval ayant été emportés et les draps mis sous scellés, les mouches devaient se contenter de flaques de sang à moitié sèches à côté du lit, lesquelles étaient manifestement trop petites pour satisfaire la demande. Shelley referma la porte de la grande chambre. Elle avait l'impression d'avoir passé trop de temps à regarder du sang aujourd'hui. Elle allait en rêver cette nuit, si toutefois elle avait la chance d'aller se coucher. Cal se trouvait déjà dans la cuisine. Elle lui avait donné une paire de gants avant d'entrer dans la maison. Il examina l'intérieur du freezer, une main gantée sur la porte, et secoua la tête. Si Sandra avait mis de l'argent de côté pour les mauvais jours, Telly avait fait main basse dessus. Shelley s'était déjà trouvée dans cette cuisine quelques heures plus tôt, en compagnie de Quincy. Elle l'examina une deuxième fois en souhaitant à toute force qu'elle lui en apprenne davantage. Les techniciens de scène de crime avaient procédé à des relevés préliminaires. Elle vit de la poudre à empreintes noires, des trous dans le lino aux endroits où l'on avait découpé des échantillons. Des traces de sang, peut-être. Elle essaya ensuite de regarder la maison avec des yeux neufs. Pas comme un shérif sur les lieux d'un crime abject, mais comme un gamin de 17 ans en quête d'un foyer. La cuisine était propre. Ce fut la première chose qui la frappa. Est-ce qu'un adolescent y accorderait de l'importance ? Le modeste séjour était coquet lui aussi. Encore une preuve que Sandra Duval était fière de son intérieur. Le canapé aux formes généreuses avait l'air confortable et un plaid était disposé avec soin sur le dossier. Est-ce que c'était trop propre ? Le genre d'endroit où un grand dadais aurait eu peur de s'attirer des ennuis s'il posait son sac à tel endroit ou ses pieds sur la table basse ? À ce propos, Shelley retourna à la penderie dans l'entrée. Les mains gantées, elle ouvrit la porte coulissante pour faire l'inventaire des manteaux. D'abord ceux de monsieur, puis ceux de madame, puis après un petit intervalle, deux manteaux tout seuls. Un imperméable et une vieille veste de chasse. Ceux de Telly certainement. Elle passa ensuite aux chaussures, au pied de la penderie. Essentiellement des tennis, des bottes en caoutchouc, le genre pratique à enfiler pour sortir rapidement. Là aussi, sous les manteaux de Telly, deux paires de tennis. La première banale et l'autre d'excellente qualité, à la mode. Peut-être bien ses chaussures du dimanche. Et qu'avait-il aux pieds en ce moment même ? Des chaussures de randonnée ou bien, vu la chaleur, des sandales de sport, des Teva par exemple ? Shelley votait en faveur de chaussures mal adaptées et susceptibles de le ralentir dans sa fuite, mais craignait qu'il n'ait pas autant de chance. Elle alla retrouver Cal, toujours plongé dans le réfrigérateur. Pas de sac à dos, dit-elle. Logique, puisque Jack George l'avait vu sur les épaules de Telly. Un frigo bien rempli, dit Cal. Plein de bonnes choses. Un ragoût fait maison, des fruits et des légumes frais. Mieux garni que le mien, en tout cas. Beaucoup de fromage, devina-t-elle, sachant l'emploi qu'il occupait. Même pas. Moi, j'ai du yaourt dans mon réfrigérateur. Ça fait rêver. Bon, revenons-en à l'ambiance, se dit Shelley. Qu'est-ce que ça ferait d'habiter ici ? La première impression était celle d'un espace de vie ouvert, pas tout jeune, mais bien entretenu. Agrémenté par une quantité de touches personnelles. Sur la cheminée, des photos du bal de fin d'année de Henry, de sa remise de diplôme. Une jolie gravure représentant des fleurs, très probablement achetée dans un vide-grenier et mise au mur parce que les couleurs plaisaient à Madame Duval ou lui rappelaient son jardin. Le désir de bien faire. Voilà ce que Shelley voyait en regardant autour d'elle. Une famille qui n'avait pas de gros moyens, pas de voiture flambant neuve pour eux ni d'objets de marque, mais tout de même une maison charmante. Vu certaines des maisons par lesquelles Telly était passée et la menace d'un placement en foyer qui planait sur lui, celle-ci avait dû lui faire un gros changement. Sa première idée en franchissant la porte avait dû être qu'il avait beaucoup, beaucoup de chance. « Ordinateur ?» demanda Cal depuis le séjour. « Un ordinateur de bureau. Il était installé sur cette petite table dans le coin. Il a déjà été envoyé aux spécialistes pour analyse. »« Je vois. » « Qu'est-ce que vous cherchez ?» demanda Shelley en quittant la cuisine pour le séjour. « Telly. Je cherche Telly. Parce que pour l'instant, tout ça... » dit Cal en désignant toute la pièce d'un geste circulaire. « Ça me parle de la mère. C'est sa maison à elle, son domaine. Et je n'ai rien contre. Mais pour un ado... il n'est pas ici chez lui. Non, il peut s'asseoir à la table pour manger, traîner sur le canapé pour regarder la télé... mais rien de tout cela ne lui ressemble. Quant à l'ordinateur familial, il n'y aurait jamais mis quoi que ce soit de personnel, d'autant que la plupart des ados communiquent exclusivement depuis leur téléphone portable et pas depuis un ordinateur de bureau. On a retrouvé son portable dans la voiture abandonnée au bord de la route. Du moins, le téléphone inclus dans le forfait groupé des Duval. Il se peut qu'il ait un appareil jetable. Les ados ont appris à se servir de cartes prépayées pour toutes les activités qu'ils veulent cacher à leurs parents. Cal la regarda. Les tireurs forcenés sont bavards, non? Je ne suis pas spécialiste, mais à chaque carnage, les tueurs avaient publié des messages sur Internet, noirci des cahiers où ils exprimaient leur colère. Le monde entier les avait trahis, le monde entier leur devait quelque chose. Alors, où est-ce que ça se trouve, tout ça? Où sont les signes que notre adolescent perturbé était réellement perturbé? Shelley comprenait ce qu'il voulait dire. Plus elle explorait la maison, plus elle voyait ce que Cal, en tant qu'homme, avait immédiatement perçu. C'était ici le domaine d'une femme. Donc, quand Telly avait besoin de s'échapper, de prendre du champ... « La chambre, » dit-elle. Le matin, Quincy y était allé le premier, remontant le couloir de chambre en chambre pour voir s'il y avait des cadavres. Cette fois-ci, Shelley passa devant. La grande chambre était celle des Duval. Restaient deux portes ouvertes. La chambre suivante était spartiate. Du lambris sombre au mur, un lit simple, un petit bureau en bois supportant une pile de livres de poche. Shelley remarqua un chargeur, sans doute pour un iPod ou un téléphone portable, mais l'appareil n'était plus là. « Il n'a pas emporté son chargeur », remarqua-t-elle sans trop savoir pourquoi c'était important. « Ce n'était pas en forêt qu'il allait pouvoir se brancher. » Cal examinait les livres qui étaient à peu près les seuls objets personnels de la pièce. Shelley jeta un coup d'œil. Des thrillers, Lee Child, Brad Taylor et, qui l'eût cru, les aventures de Huckleberry Finn. Peut-être une lecture obligatoire pour le lycée. Rien de bien alarmant, quoi qu'il en soit. « La chambre a été photographiée ?» demanda Cal.
« Oui. »«
Fouillée ?»« Simple fouille préliminaire. On a eu beaucoup de chats à fouetter. »« Je peux ?» dit-il en montrant la pièce autour de lui. Et elle acquiesça. Elle ne savait pas très bien à quoi s'attendre. Allait-il ouvrir les tiroirs, sonder les murs, soulever les lames du parquet? Cal se dirigea finalement droit vers le lit, s'y allongea et les mains sous la nuque se mit à contempler le plafond. Il imitait un ado de 17 ans perdu dans ses pensées. Il se mettait dans la tête de sa cible. Se prenant au jeu, Shelley s'assit au bureau. Pas grand-chose à regarder. Les murs étaient sombres, le bureau étriqué, alors qu'elle-même n'était pas bien grande. Mais Telly avait dû passer du temps ici, à suer sang et eau sur ses devoirs. D'après son dossier, il était loin d'être le premier de la classe, mais elle n'aurait pas su dire si cela tenait à un manque de travail ou à un défaut de capacité. Jusque-là, son crime lui semblait fort habilement mené. Elle caressa le plateau du bureau du bout des doigts, sentit les creux et les cicatrices laissées par tant de mots écrits sur tant d'années, de décennies, de générations. Elle ouvrit le tiroir vétuste. Des papiers en vrac, des post-it, quantité de stylos. Mais aucun journal intime ne lui sauta à la figure. Peut-être avait-il publié des textes sur Internet. Aux yeux de quelqu'un comme elle, les jeunes d'aujourd'hui vivaient davantage sur les réseaux sociaux que dans le monde réel. Les experts en informatique sauraient bientôt répondre à cette question. Par ailleurs, les enquêteurs de Shelley avaient envoyé une réquisition à l'opérateur téléphonique des Duval pour obtenir les relevés. Mais si elle se mettait une nouvelle fois dans la tête de Telly, elle n'arrivait pas à l'imaginer sur Internet. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle n'y arrivait pas. « C'était un tactile », conclut-elle. Telly ne voulait pas simplement voir le monde, il voulait le sentir entre ses mains. D'où ses lectures. Des livres de poche tout cornés plutôt que les liseuses numériques qui faisaient aujourd'hui fureur. « Il y a un truc au plafond », dit Cal. Shelley se redressa. Le pisteur était tellement silencieux qu'elle en avait oublié sa présence.
« Quoi ?»«
Je ne sais pas, en fonction de l'angle de la lumière, je vois comme un reflet. Des boucles, un motif. Peut-être un dessin, un griffonnage. »«
Un instant. »
Shelley rouvrit le tiroir du bureau. L'assortiment de stylos. « Bien sûr. » Des stylos à encre invisible. Mais ils étaient anormalement lourds dans sa main et leur extrémité était ronde et volumineuse. Le poids venait de la pile, comprit-elle, qui servait à alimenter une petite ampoule au bout du stylo. Une lampe UV. Tous les stylos en étaient munis.
« Fermez les rideaux, » dit-elle à Cal.
Elle-même se leva pour aller repousser la porte. Cal obéit sans un mot. Puis, lorsque la chambre ne fut plus qu'une pièce sombre et grisâtre où la lumière ne pénétrait qu'à la lisière des rideaux, Shelley appuya sur l'interrupteur du stylo. L'ampoule s'alluma et le faisceau frappa Cal entre les deux yeux. Elle le dirigea vers le plafond où se trouvait bel et bien une inscription. Ils lurent lettre après lettre, mot après mot. « Qui ?» dit Cal déchiffrant le premier mot. « Suis-je ?» lut ensuite Shelley. Héros. Zéro. Héros ou zéro, lurent-ils en chœur. Qui suis-je? Répéta Shelley. Héros ou zéro. Puis, balayant le reste du plafond et les murs lambrissés, ils trouvèrent partout ces mêmes mots répétés. Une litanie sans fin. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Avec de temps à autre une interjection. Héros ou zéro. Mais dans l'ensemble, on lisait surtout « Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? » Telly Reinach avait bel et bien tenu une sorte de journal intime. Aux quatre coins de sa chambre, du sol au plafond. Il y avait exprimé ses doutes, ses angoisses, son stress. Qui suis-je? Héros ou zéro? Shelley aurait préféré qu'il fasse le bon choix.